Europe 1.
Votre grand journal du soir à suivre, Nathalie Lévy. Les grandes voix sont installées dans ce studio jusqu'à 19h. Charles Villeneuve, bonsoir Charles.
Bonsoir.
Bonsoir Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico.
Bonsoir.
Et on accueille également Pierre Jacquemin ce soir. Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard. Vous êtes avec nous pendant une demi-heure avec les auditeurs au 3921. On est là ensemble dans un instant.
Et vous pouvez également interpeller les grandes voix sur Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir. C'est jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec jusqu'à 19h, les grandes voix qui vous entourent, Charles Villeneuve, Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico, et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard. Vous pouvez les interpeller et réagir en direct au 3921.
Les grandes voix qui ont commencé à échanger, Charles Villeneuve, Jean-Sébastien Ferjou et Pierre Jacquemin, ça commence à discuter, bien sûr, parce que les thèmes, encore une fois, ce soir sont... font réagir. La marche contre l'islamophobie très polémique ce dimanche, l'enquête sur l'augmentation des pratiques religieuses en entreprise ou encore la privatisation de la Française des Jeux. On va parler de tout cela ensemble. Je voudrais vous entendre d'abord, messieurs, sur cette enquête, précisément enquête de l'Institut Montaigne. 72% des managers constatent une augmentation des pratiques religieuses en entreprise, surtout si on compare à la situation d'il y a 5 ans. À l'époque, on était beaucoup plus en deçà, 3 fois plus nombreux aujourd'hui. On voit, il y a la question du port du voile depuis des semaines. Aujourd'hui, la question de la pratique de la religion, phénomène en forte hausse. Charles Villeneuve, il y a le fait religieux qui se banalise véritablement en entreprise.
Oui, c'est vrai que c'est un phénomène nouveau. D'ailleurs, dans pas mal d'entreprises maintenant, et pas seulement dans les entreprises, je regardais, j'observais, vous savez que moi je suis attentif à la chose militaire, mais notamment dans les bateaux militaires, les destroyers, les corvettes, le porte-avions, etc. Il y a des demandes d'aménagement de salles de prière, etc., etc. Ça, c'est un phénomène aussi nouveau qui atteint l'armée. D'ailleurs, l'INSERM a fait une très bonne étude sur l'éventuelle radicalisation islamiste dans l'armée. Ça donne des résultats moyens, je dirais. Alors maintenant, dans les entreprises, oui, on l'a vu apparaître. Déjà, ce n'est pas tout à fait récent.
Attentats de 2015,
Bon, maintenant, ça ne veut pas dire obligatoirement, évidemment, synonyme de radicalisation, d'islamisme politique, mais c'est un fait quand même qui est assez marquant. On le voit d'ailleurs avec l'affaire de la marche contre l'islamophobie. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est l'occasion souvent d'exprimer, si vous voulez, la posture de défenseur des opprimés, sauf que cette fois-ci, parmi les opprimés des signataires de la tribune, il y a des organisateurs qui sont peu fréquentables, certains étant islamistes notoires et des antisémites avérés.
Alors, j'entends votre point de vue, on va y venir là-dessus. Un mot à vous deux, Pierre Jacquemin et Jean-Sébastien Ferjou, sur ces signes religieux, le fait religieux qui se banalise, mais néanmoins, Pierre Jacquemin, de moins en moins conflictuel, de mieux en mieux géré par les responsables. On s'est habitué, on aménage dans le privé, dans le public, on n'a pas la même lecture.
Oui, d'ailleurs, c'est ce que dit le rapport. Il précise bien que la grande majorité aujourd'hui des salariés ne laisse rien transparaître de leur religiosité dans l'entreprise. C'est quand même le point essentiel de ce rapport. Donc, il ne faut pas nier qu'effectivement, il peut y avoir de manière très marginale des conflits effectivement, avec la hiérarchie. Mais c'est effectivement ce qui ressort de ce rapport, c'est qu'aujourd'hui, les managers, notamment les cadres des entreprises, sont beaucoup plus armés, beaucoup plus sensibilisés aussi à ces problématiques-là. Et de l'autre côté, les travailleurs, les salariés des entreprises sont aussi beaucoup plus à l'écoute. Dans la négociation, en tout cas, pour trouver des solutions humaines et qui puissent se permettre à chacun de vivre comme il a envie de vivre dans l'entreprise.
C'est ça,
le fonctionnement de l'entreprise.
Quand on voit cette enquête de l'Institut Montaigne, Jean-Sébastien Ferjou, on a aussi envie de se dire que les entreprises privilégient apparemment souvent le cas par cas et que la gestion se fait quand même en bonne intelligence. Effectivement, comme le disait Pierre Jacquemin, ce qui est plutôt assez rassurant.
Qu'elles se fassent en bonne intelligence, oui. Après, elles n'ont pas beaucoup le choix, les entreprises, parce que de toute façon, elles n'ont pas, le cas échéant, même dans des situations problématiques qui sont extrêmement minoritaires, elles n'ont pas beaucoup d'armes pour y faire face, parce qu'elles se retrouvent assez rapidement condamnées par les prud'hommes si elles en viennent à se séparer de salariés qui auraient des attitudes justement qui posent vraiment problème. Et là, je ne parle pas de l'affichage d'une conviction religieuse, parce que la société n'a pas à être laïque si la République l'est, elle. Mais incontestablement, il y a malgré tout, et ça reste minoritaire, mais il y a malgré tout une montée de situations qui ne sont pas acceptables par les entreprises, par exemple des managers, enfin des salariés qui refusent
de serrer une...
C'est le cas dans le BTP, c'est le cas dans les secteurs du développement informatique. C'est le cas dans le secteur informatique aussi, de salariés qui refusent de s'adresser en français à leur manager et qui refusent encore plus si c'est une femme.
Exactement.
Donc ça reste une situation minoritaire, mais on ne peut pas fermer les yeux dessus.
Mais
d'autant,
pas anecdotique.
D'autant qu'on n'aide pas les entreprises à gérer ces situations-là.
Minoritaire, mais pas anecdotique. On y revient dans un instant et puis on va bien sûr sur cette marche de dimanche contre l'islamophobie. Charles a commencé à nous en parler, effectivement. Ça fait réagir.
Votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Nathalie, jusqu'à 19h, vous êtes entourée des grandes voix. Ce soir, Charles Villeneuve, Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico, et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard, que vous pouvez interpeller au 39-21.
Et c'est ce qu'a fait Yves, qui nous appelle de Troyes. On va simplement expliquer de quoi nous parlons maintenant. Dimanche, là, dans trois jours, se tient à Paris une marche contre l'islamophobie pour lutter contre la stigmatisation des musulmans. Elle fait polémique, hein, véritablement, cette marche, parce que en cause notamment les initiateur de l'appel, un collectif proche des frères musulmans. Bonsoir Yves, bienvenue.
Bonsoir.
Cette marche-là, vous la voyez venir et vous dites quoi ?
Disons que je la vois venir avec quelque inquiétude. Merci de prendre mon appel, mais je voudrais simplement dire combien l'attitude de certains hommes politiques est irresponsable. En organisant une telle manifestation, en assumant la promotion, qui prétend lutter contre l'islamophobie, des gens comme Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise et les différentes organisations d'extrême gauche, me semblent faire parfaitement le jeu du Rassemblement national et de Marine Le Pen. Je crois qu'ils vont exactement à l'opposé de la démarche qu'ils entendent poursuivre. Je crois que c'est une démarche extrêmement dangereuse. Je crois que ce qui paraît nécessaire, c'est on peut, oui, parler de l'islamophobie qui règne en France. Encore faut-il en définir les sources.
Merci beaucoup Yves. On va réagir évidemment à votre appel qui ne laisse pas insensible. Qui veut y aller en premier ? Pierre Jacquemin par exemple ?
Moi je suis dans les premiers signataires de cet appel à manifester dimanche. Donc,
mais c'est aux entournures depuis ?
Je ne crois
pas. Gêné aux entournures depuis ?
Pas du tout. Absolument pas du tout gêné. Je pense qu'il y a une nécessité absolue d'une mobilisation nationale pour dénoncer le racisme anti-musulman, pour dénoncer l'islamophobie. Je ne sais pas quel est le terme qu'il faut choisir parce qu'effectivement l'un et l'autre posent problème à certains. Donc peu importe le terme finalement, je pense que de la même manière qu'on s'est mobilisé très nombreux pour lutter contre l'antisémitisme et ça ne posait de problème à personne de manifester, on demandait le CV à personne de savoir qui était à côté de qui, parce que la mobilisation doit être nationale sur l'antisémitisme, de la même manière sur le racisme
anti-musulman. Mais le collectif Pierre, Pierre Jacquemin.
Non, mais le
CCIF est pourtant accusé des liens avec les frères musulmans, organisation internationale de promotion de l'islam politique. Ça,
vous voyez en moi un dangereux terroriste ou un dangereux islamiste, franchement, vous pensez vraiment que j'aurais signé une affaire comme celle-là si j'étais à côté de gens qui étaient des islamistes?
Mais ça ne vous gêne pas, parce que ça en gêne plus d'un, Pierre Jacquemin. Regardez.
Il faut dire une chose, c'est qu'à un moment donné, quand les politiques ne prennent pas leurs responsabilités pour défendre des gens de leur communauté, qui est la communauté nationale, qui est la communauté de citoyens français, c'est un problème. Donc les associations sont parties du terrain, et c'est effectivement des associations de terrain qui ont lancé cette initiative.
Je vous connais, Pierre.
C'est un élu de Seine-Saint-Denis, et aujourd'hui, derrière, c'est relié par un syndicaliste comme Philippe Martinez, par Jean-Luc Mélenchon, par
Yannick
Jadot. Certes, ils sont peut-être...
Jadot, il a annulé. Fabien Roussel, il a annulé. Alexis Corbière, il s'est monté extrêmement gêné également. Ruffin. Vous l'avez dit, Charles Villeneuve.
Vous l'avez peut-être pas vu, mais cet après-midi, il a fait un tweet en disant qu'il soutenait aussi la mobilisation.
Mais il a dit qu'il n'irait pas dimanche.
Oui, mais parce qu'il a foutu. Mais bon, que chacun prenne sa responsabilité.
Quand il y a une urgence comme celle que vous pointez, on a foutu ou on va à la manifestation ?
Je le regrette parce qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir quand il s'agit de lutter contre les racismes, quel qu'il soit.
Jean-Sébastien Ferjou, Charles Villeneuve.
Déjà, un premier point, moi, je trouve ça bien que Pierre Jacquemin assume la signature de cet appel, et ça, au moins par rapport à ceux qui, justement, le font avant de s'en dédire, ce qui dénote quand même une espèce de racisme en creux, parce que moi, je veux bien qu'on signe distraitement un appel à la mobilisation contre l'islamophobie. Ça montre, à vrai dire, qu'on s'intéresse assez distraitement au sort des musulmans dans ce pays, si ce n'est pour des raisons électoralistes, ou pour se donner l'impression qu'on a un grand justicier. Donc après, moi, je respecte la conviction de Pierre Jacquemin ou d'autres. On peut se mobiliser sur cette cause-là. Maintenant, je trouve particulièrement gênant qu'on s'immobilise aux côtés de gens qui sont islamistes et aux côtés de gens qui, eux, ont une stratégie politique en déployant cette thématique de l'islamophobie. Parce que la réalité des faits, c'est que la France n'est pas un enfer pour les musulmans. Il y a du racisme, il y a des discriminations. C'est évidemment odieux. Il faut lutter contre ce racisme-là, comme il faut lutter contre les autres racismes. Je suis quand même particulièrement surpris. Je voyais aujourd'hui Marianne qui publiait... Vous savez, il y a eu un appel de 101 musulmanes qui a été publié contre le voile. Elles ont toutes été harcelées, insultées. Pourquoi ne défend-on pas aussi ces musulmanes-là ? Y aurait-il une libertophobie dans une partie de la gauche ?
Charles Villeneuve, qu'est-ce que vous dites de tout ça quand on voit cette gêne ? Elle est là, elle est claire. Et contrairement à Pierre Jacquemin, beaucoup aujourd'hui à gauche à la gauche de la gauche, ben là, on est extrêmement gêné.
Mais c'est assez intéressant, justement, parce qu'il y a deux lignes qui se révèlent à gauche. Et il y en a une ligne, si vous voulez, qui est l'héritage des socialistes historiques, républicains, laïcs, anticommunautaristes, et longtemps incarnés par Manuel Valls et par Jean-Pierre Chevènement, mais qui manifestement aussi a tracé une ligne de partage, même dans la France insoumise. Là, je vous entends dire que Jean-Luc Mélenchon, il a donc évolué, parce que lui était était plutôt républicain, laïque, anticommunautariste. Or, dans la tribune, il y a des communautaristes. Il y a même un homme qui est allé samedi dernier devant CNews, avec une cinquantaine de personnes, prononcer un discours incroyable, profondément antisémite, contre Zemmour, etc.
Je ne sais pas de qui vous parlez, mais en tout cas, je ne fais pas partie des premiers signataires de l'appel. Et encore une fois, on n'a pas demandé le CV ni le diplôme.
Alors, je remarque qu'il fait partie justement des signataires.
On va préciser ça dans un instant, puisqu'on se retrouve évidemment avec les grandes voix. Restez avec nous, bien sûr. Votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy jusqu'à 19h entourée des grandes voix qui ne s'arrêtent pas, même pendant la pub. Ce soir, Charles Villeneuve, Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico, et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard, les grandes voix que vous pouvez interpeller au 39-21. C'est ça, ça vibre dans les grandes voix chaque soir. C'est tout l'intérêt de ce rendez-vous qu'on aimerait bien prolonger. On est en tout cas ensemble encore jusqu'à 19h. Dites donc, vous avez vu, évidemment, je ne sais pas si vous y êtes allé, si vous êtes lancé, mais ça y est, en tout cas, les Français peuvent commencer à réserver des actions à la Française des Jeux qui prépare son entrée en bourse. Privatisation, l'ère des privatisations, c'est loin, on est reparti pour un tour. Oui, c'est une bonne chose, Charles Villeneuve.
Non mais attendez, c'est une privatisation en trompe-l'œil. Oui, vous avez lu l'ordonnance de la privatisation. elle préserve de toute façon une exclusivité, un monopole de la Française des Jeux sur tout le territoire pendant 25 ans à travers les 28 500 vendeurs de jeux, si vous voulez, et les 1500 agences spécialisées dans les jeux. Pendant 25 ans, c'est-à-dire que le marché n'est pas ouvert. C'est eux qui ont l'exclusivité de la vente de tous ces coupons, si vous voulez, Euromillions, loto, jeux de grattage, etc., etc. Donc de dire que c'est une privatisation totale à l'image de celles qui ont pu être faites sous Balladur, etc., non, c'est une privatisation tronquée.
Ouais. Au-delà de ça, sur le plan éthique, ça ne pose pas question? Même, les jeux de hasard, c'est une marchandise comme les autres ?
Non, ce n'est pas une marchandise comme les autres. D'ailleurs, un des enjeux, ou en tout cas un des dangers aussi de cette privatisation, c'est, il y a même trois dangers. C'est d'abord le danger budgétaire, parce que quand même l'État se prive d'une manne financière qui est quand même très importante. Ouais.
Relativement, quand même très importante. C'est 52% non seulement sur le plan fiscal, ils récupéreront pas mal. De toute façon, il y a 25 millions de joueurs
en Israël. Non, mais je veux dire,
des propos, si vous voulez, abrupts comme ça, en disant l'État, le non. Analysez d'abord l'ordonnance et vous verrez que c'est moins.
Bon, j'ai le droit d'avoir mon analyse quand même.
Oui, vous avez le droit.
Je pense qu'il y a trois dangers. Il y a le danger budgétaire, l'État se coupe d'une manne financière.
Profitez-en, vous êtes dans une république, on peut s'exprimer.
Je pense aussi qu'il y a un danger sanitaire, et ça, il y a plusieurs études qui l'ont prouvé, qu'effectivement, il y a un danger d'addiction aussi au jeu, et donc c'est pas non plus n'importe quoi que le jeu du hasard.
L'addiction, elle concerne 25 millions de Français déjà.
Et il y a un danger de sécurité aussi publique, parce qu'on sait très bien que les entreprises qui veulent s'intéresser à ce domaine, ce sont des entreprises qui ont toutes leur siège à Malte. Donc, à un moment donné, ces trois dangers-là devraient préoccuper davantage l'État. Et puis, par ailleurs, je veux juste terminer là-dessus, parce que j'ai entendu le ministre de l'Intérieur nous dire qu'effectivement, qu'il avait souhaité, à travers cette privatisation, que la Française des Jeux redevienne l'entreprise des Français.
Oui,
c'est quand même ne pas se souvenir que lui-même a été directeur de cabinet de Dominique de Villepin, qui a participé de la privatisation donc d'EDF, qui a vendu aussi l'idée d'un actionnariat populaire, où les Français pourraient s'approprier par le coût de 15 euros une action dans EDF. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a perdu le double de sa valeur. Donc bon, il faut arrêter de faire prendre les Français pour des imbéciles.
Jean-Sébastien Ferjou, faute politique ? Faute ?
Moi, ce qui m'inquiète dans cette affaire-là, indépendamment du principe, parce qu'on peut débattre, à l'infini sur l'opportunité des privatisations ou pas, c'est que l'État le fait pour de mauvaises raisons. Il ne le fait que pour faire combler ses fins de mois, en quelque sorte. Et donc, effectivement, pour une entreprise qui rapporte de l'argent, je ne comprends pas bien la logique qu'il y a à consacrer cet argent uniquement à assurer les fins de mois et l'absence de discipline budgétaire. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que ça n'est pas une bonne initiative. C'est pas non plus d'ailleurs la première des entreprises. Alors on comprend pourquoi ils choisissent celle-là, parce qu'effectivement elle est relativement rentable, même très rentable. Mais ça n'est pas la première des entreprises qui mériterait justement d'être rendue à la concurrence. Et le point que soulevait Charles Villeneuve tout à l'heure était d'ailleurs celui de la concurrence, plus que de la privatisation en soi, parce qu'il y a des monopoles privés qui existent. Il y a d'ailleurs, malheureusement, il y a de plus en plus de marchés où la concurrence est en train de s'effondrer.
Charles ?
Ben, les militants politiques dont nous avons un représentant ici...
Parce que vous n'êtes pas un militant politique, vous.
Non, certainement
deux
pas.
Deux analyses qui s'affrontent, ce
c'est
qui, pas deux...
Ce qui ne marche pas, l'État s'en charge, vous savez ce qu'on dit. Ce qui marche, l'État s'en débarrasse. Bon, là, il s'en débarrasse partiellement. Donc, c'est ça que je voulais apporter comme nuance.
Mais si quand ils disent, Charles, quand ils disent... Voilà, le gouvernement nous raconte qu'il veut vendre la FDJ aux Français, qu'il veut rendre la FDJ aux Français... Enfin, on marche un peu sur la tête.
Ils trouvent des arguments pour vendre le
projet. Une entreprise publique appartient à l'ensemble des Français. Enfin, quand on regarde les choses dans le détail, les jeunes, ils n'ont pas un plan d'épargne en action pour souscrire des titres.
Et quant à l'addiction, il y a 25 millions de Français qui jouent. Bon, ça rapporte 16 milliards, hein, à peu près. Bon, là, il y aura à peu près, c'est 52% d'actions qui sont mises sur le marché. Il y aura à peu près le tiers des Français, puisque une partie sera distribuée aux salariés, une autre aux agences, etc. C'est beaucoup moins, si vous voulez, clair que ce qu'on prétend de toute façon et ce qu'on raconte ici.
Eh ben, en tout cas, c'était intéressant de vous entendre et de vous entendre particulièrement débattre. Jean-Sébastien Ferjou, Charles Villeneuve, Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard. Et pour Jean-Sébastien Ferjou, c'est le site, bien entendu, Atlantico. Merci beaucoup des grandes voix, toujours impliquées, engagées. Merci à vous. Europe 1.